France Inter. Leur philo. Bienvenue dans Leur philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagny à la préparation, ainsi que Cécile Claire, notre précieuse stagiaire, Djoubaka au choix des disques et Benjamin Wagon à la console. C'est à la fois une relation spécifique qui résume l'ensemble de nos modes d'existence. La question est psychologique, me direz-vous, mais elle est aussi philosophique, car elle fait tenir ensemble toutes les contradictions. Parler avec sa mère, c'est le sujet de Leur philo. Vous connaissez Khalil Gibran, considéré comme le poète le plus lu après Shakespeare et Lao Tzu.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes. Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Leur philo. Patricia Martin sur France Inter.
Sage réflexion pour commencer cette émission. Maxime Romer et Fatima Ouassak sont nos invités. Maxime Romer pour un essai publié chez Flammarion intitulé « Parler avec sa mère ». Fatima Ouassak pour « La puissance des mères » sorti aux éditions La Découverte. Maxime Romer, est-il possible, envisageable, souhaitable de mettre un petit peu de rationalité dans ce qui nous lie à notre mère? C'est, me semble-t-il, en tout cas si je vous ai bien lu, ce que vous tentez de faire, ce que vous faites dans votre essai.
Oui, je pense qu'on peut raisonner sur nos rapports à nos mères à partir du moment où on croise un grand nombre de disciplines. Il ne faut pas une rationalité, il faut beaucoup de rationalité. Donc, c'est intéressant de l'aborder par le biais de la psychologie, parce que la psychologie, elle a mis en valeur un appareil psychique qui se construit petit à petit. Donc, un pédiatre comme Winnicott, c'est une lecture très précieuse pour aborder le rapport, par exemple, entre le tout petit et sa maman. Mais d'un autre côté, il y a l'approche sociologique ou historique qui va nous apporter un autre angle de vue beaucoup plus large. Mais si vous restez dans cet angle large, vous allez manquer les histoires singulières, personnelles, que la littérature raconte. Donc, c'est en croisant un peu tous ces discours que la philosophie va pouvoir émettre sur la mère une hypothèse nouvelle, qui est la proposition de ce livre, et qui en fait consiste à étendre, élargir, agrandir cette relation pour y reconnaître en fait la matrice de notre rapport au monde.
Entre une mère et son enfant, ce sont deux billes qui s'entrechoquent ?
Pas seulement, parce qu'en fait, ces billes, au départ, sont indistinctes. Il faut bien voir que le nouveau-né est dans une indistinction totale avec sa mère. Il l'identifie comme étant lui-même, au point que Winnicott, que je viens de citer, a pu écrire...
C'était avant le stade du miroir, en fait.
Exactement,
c'est ça,
précurseur d'un miroir, ouais. C'est le visage de la mère. Mmh. Donc c'est assez fascinant de penser que la différence entre la mère et le père, elle est quand même fondamentale, en ceci que le père est toujours dans ce qu'on appelle une relation d'objet. Pour un nouveau-né, c'est toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur, alors que la mère, c'est lui. Et progressivement, évidemment, le bébé apprend à s'autonomiser, mais le problème de savoir ce que nous sommes l'une pour l'autre restera à jamais comme l'une des questions qui se posent entre la mère et l'enfant.
On parle beaucoup de langue maternelle. Parle-t-on jamais la même langue que sa mère ?
On parle au départ le même silence, puisque le lien entre la mère et l'enfant, au départ, il est matériel. Si la mère est la génitrice de l'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais si la mère est la génitrice, si elle a porté le bébé, évidemment que le lien entre eux, c'est d'abord un lien, même quand il est né, d'odeur, de contact, de mille manières de se relier l'un à l'autre qui ne passe pas par le langage. Donc si on parle de langue maternelle, c'est parce que c'est par la mère que vient, je dirais, l'idéal de la communication que le langage va perpétuellement échouer à reproduire.
Il y a à la fois, et ça vous le montrez très bien Maxime Revert, une incommunication et une proximité entre l'enfant et sa maman.
Oui, parce que au fond, la familiarité entre la mère et l'enfant, elle est totale. C'est-à-dire que toutes les relations d'intimité qui vont se créer à partir de cette relation-là dépendent de la mère. C'est-à-dire, s'il y a un père, c'est parce que la mère l'accueille à ses côtés. D'ailleurs, la séparation peut éloigner les deux parents, n'est-ce pas, de l'enfant. Et l'ensemble de la famille va se constituer à partir de ce lien à la mère. Et à partir de ce lien à la famille, c'est l'ensemble de la société qui s'invite, en fait, dans notre intimité. Et cette société-là, il ne faut pas en exclure des non-humains, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis la nature. Mmh. Donc, des animaux, des paysages,
une maison, un air, une eau,
mmh, qui nous sont absolument indispensables pour vivre. Donc, notre intimité avec notre mère, c'est aussi une loupe pour regarder mieux l'intimité que nous avons avec beaucoup d'autres choses.
Une membre de l'association, du collectif plutôt, hein, Les Folles de la Place Vendôme, c'est un document qui date de 1985.
Si cette association pouvait s'étendre à d'autres mères, effectivement, qui n'ont pas encore, heureusement pour elles, été touchées, ça nous aiderait quand même bien. Parce qu'effectivement, nous, on est ici les mères. On est les mères et on est dépositaires de la justice du crime de notre enfant. C'est très dur. On a aussi notre famille à soutenir, nos enfants. Moi, j'ai mes enfants qui sont tous en dépression nerveuse, sans travail, sans rien. Donc, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes au niveau du travail. Moi, je travaille. Je me suis fait convoquer par mon patron en me disant que je manquais de trop, en me demandant les raisons pour lesquelles je manquais et que c'était inadmissible. Ça, c'est très dur à supporter. Et je pense que si d'autres mères nous rejoignaient, qui, elles, ont encore leurs enfants, elles pourraient nous aider par leurs lettres, par leurs revendications, par leurs témoignages.
Alors, on va vous expliquer ce que c'est que les folles de la place Vendôme. Fatima Ouassak, dans le préambule de votre livre, La puissance des mères, vous écrivez que votre point de vue est situé, mais que vous vous adressez à tout le monde. Alors, dites-nous qui vous êtes et quelle action, puisque vous êtes une militante, vous menez.
Oui, alors effectivement, je suis militante et j'aborde ces questions liées aux mères en tant que militante. C'est-à-dire, je m'intéresse avant tout à ce qui peut faire avancer les causes que je défends, à ce qui peut nous faire gagner. C'est pour ça que moi, je parle pas de mère au singulier. En tant que militante, la mère ne m'intéresse pas du tout. Alors, la mère que je suis un petit peu, ma mère, ma propre mère aussi. Mais alors, la mère, voilà, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là, comme peut le faire Maxime, c'est-à-dire que voilà, ça me paraît tellement vertigineux, en fait, d'essayer justement de trouver de la rationalité parmi toutes ces singularités, que vraiment, ce n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, donc, ce sont les mères au pluriel. Donc, par exemple, ces mères de la place Vendôme, mais on pourrait citer les mères de les folles de la place de Mai. Les mères...
Les folles de la place de Mai, c'était en Argentine.
Oui, quelques années auparavant, et elles se font écho les unes les autres. C'est-à-dire ces mères, en fait, qui, justement, sont sorties de cette relation singulière à leur enfant, à leurs enfants, aux autres humains, à Dieu, à la société. Elles sortent de ça pour envisager quelque chose qui les dépasse, la lutte. Voilà, la lutte, la résistance. Essayer de ne pas reproduire un ordre établi, de ne pas se contenter de reproduire cet ordre réactionnaire et envisager l'émancipation de tous les enfants. Et ce que dit à l'instant cette mère, donc de la place Vendôme, elle dit mon enfant à moi, il est mort. C'est terminé, en fait. Moi, si je me bats, c'est pour votre enfant à vous, c'est pour vos enfants à vous. Donc pour moi, voilà, c'est cette dimension politique qui m'intéresse.
Vous écrivez, une mère dans la société actuelle, c'est presque rien.
Oui, tout à fait. Dans la société actuelle, alors il faut préciser un petit peu, dans la société occidentale d'aujourd'hui, oui, c'est cette petite chose qu'on renvoie à la maison, c'est cette mère au foyer. Absolument, et qu'on qualifie de mère au foyer. C'est-à-dire qu'une mère qui n'est pas au foyer, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Voilà, quel est son rôle politique à cette mère qui sort, qui passe le pas de la porte.
Mais dans certaines classes de la société, on va dire. Hein. Donc, certaines classes sociales, ou c'est général?
Alors, non, ce n'est pas général, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la mère n'existe pas, en fait. C'est, elle existe encore moins que la femme. Il y a des mères qui sont situées, effectivement, différemment dans la société, qui ont un pouvoir qui n'est pas le même. Certaines mères même, et j'en parle dans La puissance des mères, ne sont même pas considérées comme mères. Elles ne sont même pas considérées comme des humains, en réalité. Leurs enfants ne sont même pas considérés comme des enfants. Donc on voit bien que voilà, c'est pas une expérience, à mon sens, qu'on peut généraliser, qu'on peut rendre universelle.
Ouais. Vous dites bien mère et pas maman, hein. C'est réducteur, maman?
Oui, oui. Alors, je crois qu'il y a un propos aussi d'en parler avec sa mère.
De Maxime Revert.
Ouais, sur elle. Alors, maman, on n'est pas complètement d'accord, mais alors effectivement, moi, j'aime pas le mot maman parce que je l'entends beaucoup mobiliser dès lors qu'il s'agit de mères racisées, non blanches, des quartiers populaires. Alors, c'est pas au singulier, c'est au pluriel, les mamans. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis la maman que de mes propres enfants. Voilà, il n'est pas normal, en fait, de mobiliser un terme aussi affectif, de l'intime, pour parler des mamans, enfin des mères, justement, des quartiers populaires. J'ai l'impression que c'est une manière de les sous-qualifier, voire même de les disqualifier, les mamans. Non, ce sont des mères, elles ont un rôle social, politique, et quand elles parlent sérieusement. Voilà.
Et pour revenir à Khalil Gibran, vous écrivez d'ailleurs « D'arc majestueux, aux yeux de Gibran, les parents ne sont plus pour les institutions qu'un vulgaire problème à régler ».
Oui, oui. Alors c'est intéressant parce que...
Vous êtes franco, hein, dans votre livre.
Oh ouais, bon,
hein, oui, oui, c'est, hein, c'est un livre de militante, on est d'accord, Maxime Revert.
Tout à fait.
Qui se revendique comme tel, hein, très politique. Mais effectivement, alors, Gibran, qui est cité aussi dans Parler avec sa mère, il est cité sur cette partie cette idée que les enfants ne nous appartiennent pas, etc. Et moi, je cite ce qui arrive juste après, où Gibran dit les enfants, ce sont ces flèches dont les parents ont la responsabilité, qui sont donc l'art, qui sont... voilà. Et la manière, alors j'ai plus la citation exacte, mais la manière dont ces flèches vont être lancées, jusqu'où elles vont aller, tout ça dépend en fait du parent, donc de l'arc. Bon, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, que les mères deviennent intéressantes en fait, dès lors qu'elles ont cette responsabilité. D'ailleurs, voilà, moi je dis les arcs, je dis pas l'arc au singulier, dès lors qu'elles ont cette responsabilité, c'est-à-dire que voilà. Prendre conscience que le monde de demain, en fait, dépend de cette relation, alors effectivement intime, individuelle, mais qu'on peut, comme ça, rendre collective, dépend donc de cette relation-là. C'est, voilà, c'est à nous de jouer, en fait. On a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire. Nous ne sommes pas ces petites choses, ces petites mamans. Nous sommes quelque chose de, voilà, des personnes beaucoup plus importantes.
Et c'est un petit peu, une question qu'on n'évoque pas tellement dans le féminisme, hein. C'est un peu un angle mort.
Tout à fait. Alors, de toute façon, je n'aurais pas écrit ce livre si il y avait déjà eu de quoi faire dans cette boîte à outils qu'est le féminisme, effectivement, mais on peut parler aussi de l'antiracisme ou de l'écologie. Si j'écris le livre, c'est aussi parce qu'il me manque ça. Alors, il y a une tradition féministe en France. Alors, je parle du féminisme majoritaire, hein, parce qu'évidemment, la place des mères, le rôle des mères, les mères comme levier stratégique, ça existait dans l'histoire du féminisme, mais c'était plutôt minoritaire. Et c'est vrai que pour les mères dont je suis, à un moment donné, quand il faut se battre collectivement pour protéger des enfants qui ne sont pas considérés comme des enfants, il faut justement amener cet outil supplémentaire, voilà, la maternité comme comme potentiel révolutionnaire, comme potentiel stratégique.
Maxime Revert, vous citez Fatima Ouassak à un moment donné dans votre essai, le monde n'est pas assez beau pour nos enfants, il faut s'appliquer à le changer.
Oui, je trouve que c'est une très belle phrase qu'elle a écrite et qui explique bien de quel point de vue elle se place pour utiliser en fait la relation entre les mères et les enfants comme un levier de transformation politique. C'est très intéressant parce que au fond, dans son travail, on sent que l'intérêt de la maternité ou des formes de maternité, c'est qu'elle décentre les individus, qu'elle les rapporte à plus grand qu'eux, plus grand qu'elle. Et donc cette capacité à s'identifier à un espace qui n'est pas celui justement de la maison, de la domesticité ou de ce que j'appelle la petite famille, la petite tribu, mais au contraire de se lancer dans quelque chose de plus grand qui est un projet pour tout le monde en fait. Et Romain Gary lui-même explique à un moment « Mais moi j'ai pas aimé ma mère plus que les autres. Il y avait quelque chose de, pour tout le monde dans ce que je voulais lui donner. Et donc, c'est très intéressant parce que ça signifie que, en définitive, notre relation si intime, si particulière à notre mère, en fait, peut avoir un enjeu beaucoup plus vaste. Et là, je crois que si on apprend à faire ça, même nos relations à nos mères, qui sont parfois problématiques, qui sont parfois tendues...
Sans blague.
Bah oui, gagnent à justement être aérées par cette vastitude. C'est-à-dire quand on sait dans quel environnement, à la fois social et politique, mais aussi écologique et ce que j'appelle cosmique, c'est-à-dire de très grande échelle, hein, à l'échelle de l'espèce, à l'échelle du devenir de la Terre, eh bien, évidemment, on va vivre une visite à sa mère tout autrement.
Vous êtes bien sur France Inter, vous écoutez leur philo, Fatima Ouassak et Maxime Revert sont nos invités. Tout va bien, maman, that's all right, mama. C'est Elvis Presley qui, lorsque sa mère Gladys est morte, s'est écrié « Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle ».
Seul trait de caractère, c'était moi. C'est-à-dire que toute sa personnalité, il m'a eu assez tard dans la vie, elle devait avoir dans 35 ans, toute sa personnalité s'était cristallisée sur moi. Elle avait eu une vie d'échec, et pour elle, j'apportais une promesse de triomphe, comme elle le disait.
Romain Gary, c'était en 1970 dans l'émission En toutes lettres.
Et elle s'est donc attachée à m'élever dans des conditions... très difficile, pendant la révolution en Russie d'abord, l'émigration en Pologne ensuite, et en France. En gagnant, c'était une femme seule, sans mari, je n'avais pas de père, et elle gagnait sa vie de mille façons. Elle avait ouvert une pension, elle faisait de la restauration, elle était devenue hôtelière, elle avait des vitrines de bijoux dans les grands hôtels qu'elle essayait de vendre. Tout ça se débattant entre des dettes, l'usure, les prêts à gages, et avec une détermination absolue de gagner, en ce sens qu'il voulait par-dessus tout assurer mon éducation, et comme elle disait à l'époque, que tu deviennes un homme et que tu deviennes quelqu'un. Et c'était la force dominante de sa vie, et aussi sa force et sa source de force, tout court. Puisque vraiment, c'est une femme qui ne connaissait pas d'obstacles et qui ne connaissait pas de résignation. Sa dernière lettre, que j'ai publiée dans l'édition américaine en fin du livre, qui était quelques mots griffonnés au crayon, qui me disait « Sois dur, sois fort, et continue », c'était souligné.
Oui, Romain Gary qui a beaucoup évoqué, hein, évidemment, parlé de sa maman Mina dans La promesse de l'aube. C'est à la fois magnifique ce qu'il dit sur sa mère, mais c'est un peu inquiétant parce qu'il y a une injonction là qui est pesante sur le fils, sur les épaules du fils.
Ça aurait pu être très angoissant si elle avait pas eu le panache qui était le propre de cette dame-là. Ce qu'on entend aussi dans ce que dit Romain Gary ici, c'est que l'enfant a été pour elle le prétexte, d'une certaine manière, à un effort supplémentaire. Et ce qui est très beau, en fait, c'est que dans leur relation, il ne faut pas s'imaginer un rapport de loyauté qui pèserait d'ailleurs sur nous tous. C'est-à-dire, oui, la dette qu'on aurait chacun envers les gens qui nous ont élevés, éduqués, en particulier avec la mère, si elle est la génitrice qui nous a portés. Et en fait, dans le livre, j'essaie de liquider complètement cette idée d'une dette de vie, qui est un concept qui revient régulièrement chez les psychologues et les psychanalystes, parce qu'en fait, c'est obsédant dans la clinique, ça obsède certaines personnes, mais en réalité c'est complètement fabriqué par des frustrations qui sont détournées en fait de l'espace politique où des militantes comme Fatima Ouassak les appellent, c'est-à-dire vous vous sentez frustré, mais changeons le monde ensemble. Et souvent les frustrations se retournent vers les enfants, et donc essaye de faire passer une sorte de mission, c'est-à-dire venge-moi, ou alors compense ce que j'ai perdu, etc. Et donc, liquider cette dette et admettre qu'il n'y a pas de loyauté entre les rêves de la mère et le devenir des enfants, c'est extrêmement libérateur.
Mais vous dites aussi, Maxime Robert, que si une mère est enquiquinante, c'est parce qu'elle-même a été sacrément enquiquinée avant, non ?
Ouais, c'est ça.
Grosso modo, hein, je t'amplifie.
En fait, l'idée, c'est que je crois qu'on associe d'une manière totalement délirante la maternité avec un pouvoir qui serait tendanciellement intrusif. Mais pas du tout. La maternité n'est pas intrusive, sauf si la femme que la mère est aussi ne trouve pas à s'exprimer. Alors bien sûr, sous la pression d'une société qui ne la laisse pas s'épanouir par ailleurs, une femme va trouver à investir, à surinvestir, je dirais, son énergie, c'est son attente face à la vie, mais même sa joie d'exister, dans le cas de Romain Gary, dans sa relation, je dirais, familiale avec sa descendance. Donc, réouvrir un peu tout ça, c'est évidemment un projet politique, mais c'est aussi un projet philosophique, puisqu'en fait, de fil en aiguille, on peut arriver à une ampleur philosophique comme ça, complètement folle, métaphysique.
Mais Fatima Ouassak, je vais peut-être vous poser une question que vous trouverez trop intime, enfin bon, sinon vous m'envoyez bouler, hein, y a pas de problème, mais est-ce que votre propre mère vous a ouvert un chemin pour éduquer, vous, vos enfants ?
Oui, et de manière, je vais sortir de l'intime si vous permettez, de manière plus classique, chez ces mères subalternes, ces mères non blanches, ces mères marginales, marginalisées, on peut parler aussi des mères lesbiennes qui sont un petit peu évoquées aussi dans le livre, des mères en fait qui... Je trouve ont intérêt quand même à rappeler, alors ce que vous appelez dette, moi je l'appelle pas dette, l'ONU parle de droit de l'enfant, pour l'enfant, de voir ses parents, dont sa mère, transmettre culture, religion, langue, bêtises, interdits, etc. C'est un droit fondamental pour l'enfant. Voilà. Quand on est subalterne, c'est-à-dire quand on n'est pas considéré comme une mère légitime, avec tous les propos, notamment en France, de la politique de la ville qui tend à disqualifier ces femmes-là en disant « mais vous êtes de mauvaises mères, vous occupez mal de vos enfants, vous les laissez traîner dehors ». Ou alors vous êtes trop envahissante, c'est-à-dire que vous êtes soit comme ça dans du laxisme, ou alors vous êtes voilà, vous prenez toute la place, etc. Donc il y a comme ça une politique et de longue date qui est adressée à l'égard de ces mères-là pour les disqualifier. Et il peut y avoir quelque chose d'intéressant politiquement à aller revendiquer en fait cette quelque chose qu'on impose, c'est vrai, à ses enfants, à son enfant, pour dire voilà, on cherche à me disqualifier, mais moi je suis là. Et donc, je t'ai porté pendant 9 mois, je t'ai allaité pendant 2 ans, ça c'est quelque chose que je dis moi à mes enfants, qui m'a été dit. Alors, ça peut paraître comme ça, ultra lourd en fait, mais pourquoi tu dis un truc comme ça, justement, tu imposes ça à l'enfant et il est censé en être redevable. Moi, je pense que ça le protège, ça le sécurise en fait, d'entendre sa mère subalterne disqualifiée dans la société française, avoir cette forme de fierté en fait, en disant mon fils, ma fille, tu me dois quelque chose, voilà, il faut que tu restes droit dans tes bottes, fier de ce que tu es, fier donc de ce que je suis, musulman, musulmane, arabe, noire, voilà. Cette fierté là lorsqu'on la transmet comme ça, je la trouve intéressante politiquement. Et juste un mot aussi pour dire que ça peut être marrant en fait, voilà, moi j'avoue que je joue aussi à la mère, alors on pourrait dire la mère méditerranéenne, la mère arabe, la mère juive, parce que je trouve ça marrant, parce que nos enfants sont sont aussi des sujets politiques. Il y a une agentivité. Et donc, ils peuvent se moquer, ils peuvent nous caricaturer. Moi, mes enfants passent leur temps à à se moquer justement de ce côté mer méditerranéenne et mer arabe, quoi. Et voilà, donc même si c'est pas politiquement correct, on va dire, de s'imposer comme ça à ces gosses, voilà, moi, je trouve que, bon, il y a là de l'humour possible, de la poésie.
Moi, je vous assure, en tout cas, que j'aimerais être une souris pour aller voir, quelquefois, entendre ce qui se passe chez vous, parce que ça doit pas être triste, effectivement. Maxime Revert, vous dites que une mère, c'est presque pas un individu, ce sont d'abord des fonctions, et grosso modo, il y en a 10, hein, de la conception à l'affection, enfin, ça passe par tout un... Et la fonction, c'est une... Il y a une définition sociale, quoi, de la fonction.
Non, alors attendez, je dis pas que c'est presque pas un individu, je fais la différence entre un individu et des fonctions.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que quand par rapport à ses fonctions, la mère n'est presque pas un individu.
Bah,
Il
y a un individu, non, je vais pas nier l'individualité. Maman, si tu nous écoutes, sache que tu es un individu. Et donc, que cet individu, justement, pour en respecter la complexité, la réalité, c'est utile de distinguer l'individu qui existe. Donc, ma maman s'appelle Annie. Les fonctions qu'elle a pu remplir et qui font qu'on peut lui attribuer le mot ou le rôle de mère. Et le rôle de mère, en fait, il n'est pas réduit à une chose, il se démultiplie en fonction. Et dès qu'on s'aperçoit que, ah bah oui, c'est vrai, on peut dire que la mère, c'est celle qui conçoit l'enfant, c'est-à-dire qui donne son ovule. Ah oui, mais c'est aussi celle qui le porte, donc elle a la fonction de la gestation. Ah oui, mais c'est aussi celle qui le nourrit, et puis c'est aussi celle qui va être l'éducatrice ou l'accompagnante dans les enseignements, et puis ainsi de suite.
Et certaines fonctions, d'ailleurs, ça change, parce que c'est aussi l'art de la transformation, parce qu'il y a des fonctions qui s'éteignent à un moment donné.
Voilà, et qui peuvent être répartis entre plusieurs individus, qui peuvent être complètement communes avec le père. On pourrait même considérer que finalement, le père, c'est une mère comme les autres. Mmh. C'est juste qu'il ne porte pas l'enfant, donc évidemment, il y a des spécificités. Mais à partir de cette notion de fonction, effectivement, les problèmes que nous posent nos mères, c'est-à-dire les difficultés, je dirais, existentielles qu'on observe dans les décisions qu'on a à prendre pour, la maison, la voiture ou des choses petites, le dîner, l'organisation de Noël, c'est toutes ces choses-là, si elles posent problème, c'est parce qu'en fait les fonctions sont un petit peu en suspens et on ne sait pas lesquelles sont obsolètes, c'est-à-dire maman, il n'y a plus besoin de me nourrir, je suis un grand garçon maintenant.
Oui, et tu peux venir déjeuner chez moi ou je t'emmène au restaurant et tu n'es pas obligé de me faire la cuisine.
Voilà, inversement, si pour me manifester ton amour et ton d'affection, c'est le fait de me faire à manger qui te fera le plus plaisir, ouais. Je peux l'accepter sans me sentir infériorisé. Donc, rentrer dans cette réflexion sur le fait que, oui, en fait, entre deux individus qui sont des adultes, il y a de la maternité dans l'air, mais on ne sait plus où elle est. Et il va falloir renégocier ensemble pour retrouver les moyens, de s'aimer.
Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'écrire sur ce sujet, sachant que a priori, elle allait vous lire, votre mère.
Ouais, elle était assez inquiète. En fait, c'est le premier livre auquel elle participe activement. Ouais. Puisque quand j'ai travaillé sur les fonctions maternelles, j'ai appelé ma mère, parce que j'avais le sentiment d'une réciprocité que je ne décrivais pas bien. Ça veut dire, s'il y a des fonctions maternelles, quelle est la fonction de l'enfant ? Et je me suis dit, tiens, je vais appeler ma mère. Et j'appelle ma mère et je lui dis, mais maman, je travaille sur des fonctions qui seraient les fonctions de la mère. D'après toi, quel est le rôle de l'enfant à l'égard de sa mère ? Et là, elle me répond... survivre. Ce que la mère demande à son enfant, c'est d'abord de survivre. Et en fait, cette intuition philosophique de ma mère a orienté l'ensemble du livre.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oh oui, d'ailleurs, vous citez Baldwin là-dessus, ouais, sur le fait de survivre. Oui, je trouve ça très très beau, en fait. Tout à fait.
Françoise Dolto, alors évidemment vous la connaissez, pédiatre et psychanalyste, l'une des premières psychanalystes pour enfants en France. Elle a été très présente il y a des années, certains s'en souviennent, sur l'antenne de France Inter, par le biais de son dialogue avec les auditeurs. Elle répondait quotidiennement aux questions de parents parfois désemparés. Mais elle aussi, figurez-vous, a eu des enfants. Écoutons-la, c'était au micro de France Culture.
Je ne savais pas que j'aurais des enfants parce que j'ai commencé très tard. J'ai eu mon premier enfant, j'avais 38 ans. J'avais tout mon métier déjà, et puis je n'avais pas du tout envie d'avoir des enfants si je n'avais pas trouvé le compagnon qui était vraiment celui que j'aimais. Et c'est parce que j'ai aimé Boris Dolto que j'ai désiré avoir des enfants de lui. Sinon, avoir des enfants pour des enfants, je trouve ça complètement idiot. En fait, l'éducation, c'est de ne pas trop gêner l'évolution d'un enfant. C'est de parler tous ses désirs et de toujours les justifier, mais de ne pas les satisfaire, puisque on ne peut pas satisfaire tous les désirs, puisqu'il faut déjà aussi continuer de satisfaire les siens. Donc, c'est cette vie de convivialité, dès le début de la vie d'un enfant, qui est quelque chose de merveilleux, et aucun enfant n'est pareil à un autre. Moi, je ne sais pas du tout comment j'ai élevé mes enfants. Il n'y a qu'à suivre leur rythme. Ils ont faim, ils mangent, ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas. Ils ont sommeil, ils dorment, ils n'ont pas sommeil, ils dorment pas, ça n'a aucune importance, pourvu qu'ils laissent tranquilles les parents à partir d'une certaine heure. Je n'ai jamais contrôlé si mes enfants savaient lire, écrire ou s'ils avaient fait leurs devoirs. Je n'ai jamais rien regardé.
J'étais tout le temps à l'écoute. Pour moi, les enfants ont été mes maîtres et continuent de l'être. Et mes propres enfants, je suis un peu une Mary Bou, je les trouvais merveilleux, admirables et... Tous les enfants, j'ai trouvé admirable, mais les miens encore mieux.
C'est normal.
Françoise Dolto sur France Culture, une mère hibou. C'est joli, non, ce qu'elle dit. Alors, aujourd'hui, elle est un peu décriée, Françoise Dolto, parce qu'on dit que, bon, elle a eu des théories peut-être un peu trop l'enfant roi, un peu trop laxiste, etc. Maxime Revert, qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut les replacer dans l'histoire, c'est-à-dire il faut vraiment se représenter ce qu'était la société à laquelle elle s'adressait et qui était une société extrêmement autoritaire. Donc évidemment, aujourd'hui, on se dit « Ah oui, mais quand même, elle tordait le bâton dans l'autre sens ». Non, ce sont des effets d'émancipation. On est en dialogue quand on écrit des livres avec une certaine société. Les livres restent et c'est tant mieux, mais ils deviennent en fait des sources d'inspiration pour penser différemment. Moi, j'ai beaucoup lu Dolto, mais comme Winnicott, comme Freud, comme d'autres... grand penseur de la relation mère-enfant, et penseuse d'ailleurs, Mélanie Klein et d'autres. Et en fait, bien sûr que à chaque étape, il faut reconstituer de nouvelles conditions historiques et de nouvelles mœurs pour comprendre ce qui se joue. Et l'un des enjeux aujourd'hui pour nous, c'est justement de comprendre que dans ce rapport qui nous paraît intime et petit, de petite échelle, ça veut dire ça se passe que chez moi, ça ne concerne que ma propre famille... En fait, il y a des choses de très grande ampleur qui se jouent. Et donc, c'est essentiel de, je dirais, détrivialiser nos rapports à nos mères, c'est-à-dire de comprendre que c'est pas rien qui se passe, c'est pas juste un truc emmerdant dont on n'aurait pas envie de s'occuper, même si c'est une vaisselle à faire, il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer là, pas seulement d'un point de vue psychologique, mais aussi philosophique, historique, sociologique, et même... je dirais existentielle, c'est-à-dire c'est votre place sur Terre à un certain moment qui se joue dans les échanges que vous pouvez avoir, évidemment avec votre mère, mais avec votre famille et derrière avec l'ensemble de la société. C'est vraiment, on voit en petit quelque chose qui est en fait très grand.
Fatima Ouessac.
Oui, et en même temps, je pense que c'est pas suffisant. Alors effectivement, c'est fondamental.
C'est la militante qui parle.
Oui, parce que c'est pas suffisant parce que dans le féminisme, puisqu'on parlait d'angle mort dans le féminisme, moi j'ai vu ces dernières années grandir cette idée que il fallait réinvestir la relation mère-enfant, il fallait en faire quelque chose de politique. Voilà, il fallait rejeter comme ça le propos d'une Simone de Beauvoir un peu caricaturée qui considère que voilà les mères c'est cette chose aliénante qui sert à rien, etc. Donc il fallait revenir là-dessus et donc voir voilà ce qu'on pouvait dénicher là-dedans. Et en fait, moi, je vois que on pourrait aller vers une mère. Alors, est-ce que je peux me permettre un gros mot ?
Allez-y. Oui.
Une mère qui est un connard comme un autre, en fait. Parce que les mères, c'est quand même... oui, il y a aussi des connards parmi les mères. Il y a aussi des réactionnaires, des personnes qui sont dans un rapport de domination aussi, dans un rapport maltraitant vis-à-vis des enfants. Sortir de ça, il faut avoir, il faut une dimension politique, c'est-à-dire il s'agit pas simplement de penser, de réfléchir, de changer la relation que j'ai à mon enfant, à mes enfants. Il s'agit aussi d'être solidaire en fait des autres mères, d'en avoir conscience. D'ailleurs, je suis pas une mère, je fais partie de cet ensemble qui s'appelle les mères, qui n'existe pas encore, mais ça peut être un horizon. Auquel on peut travailler, et il s'agit bien de protéger, de libérer, d'émanciper tous les enfants. Je trouve, moi, qu'aujourd'hui, on n'y est pas, en fait. On est vraiment dans une vision très occidentale de justement de cette relation mère-enfant. Alors, vous connaissez Ce mot en Afrique, un enfant, il faut tout un village, j'ai plus l'expression exacte, mais
élever un enfant.
Voilà, il faut tout un village pour élever un enfant. D'ailleurs, ça rejoint les fonctions dont vous parlez au début du livre. Voilà, c'est dans quelle mesure on peut revenir à ça, en fait, à une communauté de mères. C'est-à-dire, encore une fois, les mères au pluriel, qui ne se soucient pas simplement de leurs propres enfants, mais qui se soucient aussi des enfants des voisins, voisines, alors même qu'on est dans une société qui ne nous y invite pas du tout.
Voilà. Albert Cohen, avant que je ne m'étouffe. C'était dans Apostrophe, en 1977.
Ce qu'elle avait de particulier, ma mère, c'est qu'elle n'avait pas de moi. Son moi, c'était son fils.
Et un peu son mari aussi.
Certainement. Elle était trop fille de la Bible pour ne pas respecter son Seigneur. Ce livre, je l'ai écrit pour venger ma mère.
Et venger de quoi?
De son fils.
Oh, vous étiez pourtant un bon fils.
Par saccade. Mais les fils sont une engeance affreuse. Ils sont jeunes et, vous le disiez tout à l'heure, ils ne savent pas que leur mère est mortelle.
Les fils ne savent pas que leur mère est mortelle. Maxime Revert.
Ouais, je pense que Albert Cohen, dans le livre de ma mère, essaye de compenser d'une manière que je dois dire assez maladroite, à mon avis, une ingratitude qui a été la sienne tout au long de sa vie.
Et qu'il regrette.
Ouais, et puis on le sent, il en parle, c'est pas moi qui la lui attribue. Pourquoi je dis que c'est maladroit? Parce que si on lit attentivement le livre de ma mère, on s'aperçoit que l'une des choses pour lesquelles il s'en veut, c'est d'avoir délaissé sa maman pour aller voir celle qu'il appelle des gazelles. Et là, on se dit, ah ben mince, il essaye de rendre hommage à sa mère, et pour rendre hommage à sa mère, en fait, il diminue. C'est quand même l'auteur de Belle du Seigneur, ça veut dire c'est quelqu'un qui est censé avoir porté l'amour hétérosexuel comme ça entre deux personnes à son point d'incandescence. Et quand on le voit là tout diminué pour essayer de se justifier, c'est un peu bizarre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au fond, quand on parle de sa propre mère, il faudrait tenir compte, Fatima Ouassak en a dit un mot tout à l'heure, de défaillance aussi, de ses défaillances.
Mais oui, Winnicott en a parlé, ça, de la mère défaillante. Le bébé en a besoin.
Le
même.
Bébé en a besoin. Et donc, l'une des contributions les plus précieuses d'une mère au monde, ce sont ses défauts. C'est à partir de ces défauts que ces enfants deviennent autonomes, et donc, au lieu de les lui reprocher en permanence, il faudrait les identifier comme un point de départ pour de la régénération. C'est-à-dire pas pour de la réparation, on va pas la réparer sa maman, on va pas, et justement on n'a pas besoin de la mettre dans une posture d'inférieur qui aurait besoin de nous. Peut-être qu'elle va avoir besoin de nous, surtout en vieillissant. Je m'intéresse beaucoup à la vieille mère à la fin du livre, parce que c'est une réalité qui va devenir de plus en plus forte, et partagée chez nous, enfin à l'échelle mondiale. Et en fait, on s'aperçoit que cette histoire de défaut dont je parle et qu'on attribue facilement à ses souvenirs d'enfance, et on se dit « Ah ouais, ma mère n'a pas été au top tout le temps », en réalité, vous savez, votre mère, elle va aussi devenir vieille, elle va être plus du tout au top pour d'autres raisons et elle va avoir besoin d'assistance. Et au lieu de rentrer dans cette déploration qui consiste à considérer que la vieillesse est de toute façon une dégénérescence, eh bien on peut sortir du déclinisme en s'intéressant à ce que les vieilles mères ont encore à nous apprendre. Et là, il y a un espace qui s'ouvre.
Mais la mère défaillante ne compromet pas, et ça vous le montrez bien dans votre livre, Maxime Revert, ne compromet pas l'accès à l'amour maternel.
Non, en fait, ce qui est très curieux, c'est que même des très mauvaises mères reçoivent beaucoup d'amour de leurs enfants. Ouais. On ne se détache pas de sa mère parce qu'elle aurait été mauvaise, quel que soit le degré d'insuffisance. Ce qui est certain, c'est que, d'abord, depuis tout à l'heure, on ne parle que de la mère, mais évidemment, il y a aussi souvent des pères, un père, et puis il peut y avoir des beaux-pères. Et donc, progressivement, on s'aperçoit qu'on parle de la mère, mais en fait, ce que j'appelle la présence maternelle, et d'ailleurs les fonctions maternelles, en fait, c'est réparti entre beaucoup d'individus.
Mais c'est ça aussi que vous appelez un cosmos. Non pas le cosmos, mais un cosmos.
Ouais, j'utilise le mot...
Tout.
Oui.
Non, mais c'est intéressant que vous employiez ce mot.
Ouais, j'utilise le mot cosmos parce que, en fait, bon, alors nous, on l'associe plutôt aux étoiles, tout ça, la Voie lactée, mais en réalité, cosmos, en philosophie, c'est un terme qu'on attribue à Pythagore et qui est censé désigner, je dirais, un système capable de s'auto-organiser. Voilà. Il y a un surcroît d'organisation qui émerge comme ça. Et donc, dans nos rapports, d'abord, c'est ça la naissance, hein, ça veut dire quand il y a un individu qui naît, c'est qu'il y a de la vie là qui est en train de s'organiser.
Il n'y a pas une page blanche.
Voilà, c'est pas une page blanche. En fait, on a tendance à penser que les nouveau-nés, ils arrivent et puis les pauvres, ils subissent les défauts de leurs parents ou de leur famille. Mais non, c'est plutôt qu'il y a quelque chose de très complexe qui est une famille qui va s'organiser de telle manière à avoir besoin d'un terminal organique qui est un corps humain, c'est le petit individu qui naît, et lui, il naît dans un système comme une réponse de ce système à ses propres failles. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de repenser ce que c'est qu'un enfant et ce que c'est que tous nos rôles familiaux, en fait, en tant que fils ou fille, en tant que mère ou père, en tant que cousin, cousine, frère, sœur, etc., comme étant pas seulement des rôles qu'on nous impose, mais comme étant des coordonnées existentielles à partir desquelles nous devons exister. Il va falloir inventer un truc là. Il va falloir inventer ce que je suis. Et évidemment, je voudrais peut-être être mille choses, mais il se trouve que je suis aussi un fils ou une fille. Et ça, le rôle n'est pas préécrit. Et donc, l'intérêt en fait de penser les choses de cette manière-là, c'est que ça permet à la fois d'accepter le rôle, c'est-à-dire après tout, je suis l'enfant de telle personne. Eh bien, il va falloir que je l'assume. Et en même temps que ça responsabilise en fait les individus, ça ouvre tout l'espace de leur liberté, puisque ce rôle n'est pas écrit à l'avance. Et là où ça devient intéressant, c'est que tout l'enjeu va être de régénérer la présence maternelle, c'est-à-dire, si vous n'avez pas eu une mère telle que vous auriez voulu en avoir une, soyez celle-là.
Fatima Ouassak.
Oui, alors, je vais me permettre d'associer le cosmos dont on vient de parler avec cette organisation qui s'appelle Front de Mer, dont je fais partie, où, dans cette organisation, pendant de nombreuses années, les non-mères étaient majoritaires, c'est-à-dire des femmes qui n'avaient pas elles-mêmes d'enfants biologiques, des hommes qui étaient pères ou des hommes qui n'avaient pas d'enfants biologiques, mais qui avaient des neveux, des nièces, des voisins, des voisines, des enfants dont ils se souciaient en fait. Et pourtant ça s'appelle Front de Mère. Donc encore une fois, les mères y étaient minoritaires dans cette organisation qui s'appelle Front de Mère. Donc c'est dire à quel point cette notion de mère, en fait, à quel point c'est quelque chose de très politique. Voilà, ça ne renvoie pas du tout, ça ne se réduit pas à cette relation et à cette dimension biologique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est justement de penser cette relation, la maternité, de manière politique et stratégique, à un endroit et à un moment où tout nous pousse à une relation individualiste, s'occuper de son propre gosse en fait. Moi, c'est là où je dis il faut passer la deuxième. Mmh. Et vraiment, il faut aussi se soucier en fait de casser cette tendance en fait, ce qui nous pousse à être individualiste. Et ce qui nous pousse parce qu'il y a vraiment une politique qui est menée pour nous mettre en concurrence les uns des autres, c'est-à-dire pour nous faire croire que pour que mon enfant à moi réussisse, il faut que l'enfant du voisin ne réussissent pas. Donc il faut réussir à créer une conscience presque de classe, les mères, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, au-delà du biologique, les mères qui pensent les générations futures et qui se disent, voilà, c'est pas forcément pour mes enfants à moi, mais c'est aussi pour les enfants du voisin, d'ailleurs qui est de relation, enfin de caractère biologique aussi avec le voisin, c'est pas forcément le frère, bien la sûr. Sœur, la grand-mère, ça peut être simplement le malien, la palestinienne, l'ukrainienne, etc.
Mathieu Bogart sur France Inter.
Dans une case tu m'as mis, dans une case tu m'as mis, entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris, dans une catégorie. Et là je ne peux plus bouger, et là je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé. Qu'est-ce que tu m'as gazé? Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est par où la sortie?
Dans une case tu m'as mis.
Moi je dis c'est une erreur, j'ai rien à faire dans le secteur. Y'a pas la hauteur, y a pas la longueur, y a pas la largeur. Fallait pas appuyer enter. Quelle idée t'as foutu de moi? C'est trop réduit, c'est trop étroit. Dans ta tête dure, combien je mesure un tout petit poids? Ah ça c'est sûr, c'est pas la joie. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. C'est pas où la sortie. Dans une case tu m'as mis. Y aura-t-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête. Dans une case tu m'as mis. Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case tu m'as mis.
Espérons que les mères ne mettent pas leurs enfants dans des cases et réciproquement. Tout à l'heure, on l'évoquait déjà un petit peu par le biais d'Albert Cohen, donc les fils ne savent pas que leur mère est mortelle. On change de planète une fois qu'on a perdu sa mère, dit Romain Gary de son côté. Je ne pense pas que ça puisse s'anticiper, ça, mais ce que vous montrez bien, parce que là aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, Maxime Revert, vous parlez très très bien de cette mère vieillissante qui, au fond, encombre, dont on peut se demander si elle encombre plus qu'elle n'émeut. Vous dites un nouveau-né, ça émeut, une vieille dame, ça peut encombrer. Ça peut pas
au sens où notre société nous incite à voir les choses de cette manière-là.
Bien parce évidemment. Bien évidemment.
L'idée, c'est de surmonter cette impression en fait odieuse, mais qui est ressentie par les gens, parce qu'évidemment, dans le quotidien, vous avez des choses à faire, vous avez du travail, vous avez des enfants à vous occuper, et puis en plus, il y a cette question de la maman, je sais pas, Alzheimer, et donc face à ces drames-là, en fait, ce qu'apporte la philosophie, c'est un retournement complet. J'ai utilisé une référence à Darwin parce que Darwin, évidemment, en tant que biologiste,
a une vision,
vision beaucoup plus large où en fait la reproduction sexuée, c'est un grand cycle de génération qui appartient à une espèce. Et évidemment, quand on prend cet angle-là, on s'aperçoit que le vieillissement de nos parents, l'accompagnement de nos mères comme de nos pères, enfin de nos proches en fait, dans le grand âge. C'est pas nécessairement à vivre comme un drame, c'est surtout à vivre comme une manière pour nous de reprendre notre place à l'intérieur d'un grand cycle. Évidemment, si on vous en parle jamais, si vous n'y pensez jamais tout au long de votre vie, vous allez vous prendre la perspective de la mort exactement comme un mur contre lequel on se cogne. Mais si vous pensez la mort autrement, c'est-à-dire comme la réciproque de la naissance, comme quelque chose qui vous intègre en fait à un mouvement beaucoup plus vaste, et qu'en réalité, d'une certaine manière, vieillir et peut-être avoir des effets de dégénérescence qu'on connaît, ça veut dire on oublie les noms, on se souvient plus, on commence à perdre un peu des fonctions motrices aussi, etc.
Et quelquefois une mère par exemple qui ne reconnaît plus son enfant, ça peut arriver aussi.
Ça arrive, et donc ces choses-là, ces expériences-là restent des expériences de vie, mais d'une vie autre, d'une vie qu'on appelle archaïque en psychologie.
Oui, c'est ça, c'est des interactions archaïques avec la mère âgée, c'est ça?
Archaïque, ça signifie ça vient d'avant le langage. Mmh. C'est pour ça qu'on dit archaïque, c'est pas que c'est vieux, ancien. Non. C'est que c'est très profond et c'est profond dans le corps. Mmh. Et ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, que je mène pas tout seul, que je mobilise beaucoup de psychologie, c'est justement que cet archaïque, c'est qu'il y a de plus essentiel dans notre rapport au corps et à la vie.
Et puis vous parlez de Nietzsche, vous parlez de Baudelaire, vous parlez d'Hemingway, enfin c'est extrêmement riche et il n'y a rien à perdre, rien à gagner dans l'affaire. Il faut explorer la joie d'aimer. Fatima Ouassak, je ne pense pas que vous contrarierez Maxime Revert. La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire, c'est donc paru aux éditions La Découverte. Maxime Revert, parler avec sa mère, c'est chez Flammarion. Merci à tous les deux.
Merci
à vous.